Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À la veille de la Première Guerre mondiale, une vieille dame se présente au château de Fontainebleau. Il se trouve qu'elle connaît bien les lieux. C'est son histoire que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. La vieille dame en question, un demi-siècle plus tôt, avait littéralement animé les lieux, puisqu'il s'agissait de l'ancienne impératrice Eugénie, dont je vais évoquer le souvenir dans un instant. Étienne Chillot consacre à son incursion de 1914 à Fontainebleau un opuscule intitulé « La dernière visite », avec une belle préface de Frédéric Mitterrand. Il est notre invité cet après-midi.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Vincent qui voudrait vous voir revenir sur les origines du savon.
Ah, ça, c'est une intéressante question. Il me semble que les savons de l'impératrice Eugénie étaient parfumés à la violette.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand.
Je ne crois pas qu'il y ait dans toute notre histoire un personnage dont on puisse dire, autant que de génie, que sa vie est pleine de hauts et de bas, de coups de théâtre et de coups du sort, un peu à la manière d'un mélodrame. Quelle existence inouïe! Dites-vous que cette femme d'origine espagnole, elle était née à Grenade et du reste elle mourra à Madrid. Cette femme espagnole a régné sur les Français pendant 17 ans avant d'être contrainte à s'installer en Grande-Bretagne et de vivre le reste de son âge un peu à travers l'Europe, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec Étienne Chillot. Cette dame était quand même, on pourrait presque dire qu'elle a vécu à cheval sur deux époques. Elle était la nièce par alliance de Napoléon Ier, elle était la confidente de Stendhal et du jeune Mérimée, elle était la souveraine contemporaine de Victoria ou de la jeune Sissi. Et en même temps, elle a connu l'électricité, le cinéma, l'automobile. Elle rêvait de voler en aéroplane. Et lors de ses séjours à Paris, figurez-vous qu'elle montait dans l'omnibus, comme tout le monde, avec son ticket. Au début du dernier siècle, on pouvait croiser l'ancienne impératrice dans le jardin des Tuileries. Elle donnait des bonbons aux enfants. J'ai même, moi, eu la chance de rencontrer un monsieur qui, étant tout petit, l'avait connue. Et on lui disait, tu vas être bien sage et quand la dame passera, tu lui diras merci beaucoup, madame. Et c'était l'impératrice Eugénie qui donnait des caramels aux enfants des Tuileries. Il faut vous dire qu'elle venait régulièrement résider à l'hôtel Intercontinental, dans trois chambres qu'on avait réunies pour elle, les chambres 185, 186 et 187, qui formaient une grande suite et qui donnaient bien entendu sur ce jardin des Tuileries qui avait été la résidence, ne l'oublions pas, du couple impérial pendant tout le Second Empire. Elle recevait là un certain nombre d'écrivains, d'historiens et notamment le célèbre Maurice Paléologue auquel elle disait, je cite la relation qu'en a faite Paléologue, l'époque nous a tant calomniés. Reste à nous faire entendre. Vous savez, chacun a son étiquette, impossible à décoller. Mon flacon n'est pas drôle. L'histoire y a mis une fois pour toutes le mot poison, sans chercher à en savoir plus long. Paléologue, un jour, alors qu'ils étaient tous les deux justement sur le petit balcon à la fenêtre donnant sur les Tuileries, lui demanda quelles avaient été les heures les plus radieuses, les plus exaltantes de son règne. Et là, l'impératrice n'a pas hésité du tout. « Oh » a-t-elle répondu, « c'est le baptême du prince impérial, le 16 juin 1856. Pendant le trajet des Tuileries jusqu'à Notre-Dame, j'étais seul avec l'empereur dans le carrosse pompeux de notre mariage. Le prince impérial, ses gouvernantes et sa nourrice, le prince impérial c'est leur fils bien entendu, hein, occupait la voiture précédente. Il était à peu près 6 heures du soir, des maréchaux cavalcadaient à nos portières, on nous acclamait frénétiquement, le soleil qui commençait à décliner empourprait la rue de Rivoli, nous défilions dans une lumière éblouissante. Près de moi, l'empereur restait silencieux, ne s'occupant qu'à saluer. Je ne lui disais rien non plus, parce qu'une allégresse ineffable me soulevait l'âme. Je me répétais intérieurement, C'est par cet enfant, c'est par mon fils, que la dynastie napoléonienne s'enracinera définitivement sur la terre de France, comme s'y est implantée, il y a 8 siècles, la dynastie capétienne. C'est lui qui mettra le sceau définitif à l'œuvre de son père. Une voix plus forte que toutes mes craintes me rassurait, me dilatait le cœur, me remplissait de confiance et d'orgueil. Ah, Notre-Dame, les acclamations de la foule sont tout simplement extraordinaire. Le couple impérial fait une entrée mémorable, historique, dans la cathédrale de Paris. L'impératrice est trop émue pour soulever elle-même cet enfant qui, il faut le dire, pèse déjà un certain poids. C'est l'empereur qui va s'en charger et il dira à sa femme, entre à mi-voix, comme ça, au moment où la foule est en train de les acclamer, il lui dira « Oh, ce baptême vaut bien un sacre !» Car il n'avait pas été sacré ni l'empereur Napoléon III ni son épouse, l'impératrice génie. Alors, grâce à cet enfant, bien entendu, l'impératrice devient la coqueluche des Français. Elle devient une personnalité extrêmement populaire dans toute cette deuxième moitié des années 1850. Elle est très populaire, mais on ne la connaît pas véritablement. On sait qu'elle est d'origine espagnole, on connaît son nom, Eugénie, Eugenia de Montijo. On sait que son mari ne l'appelait pas Eugénie d'ailleurs, mais Eugénie, on ne sait pas pourquoi Napoléon III, qui avait une espèce d'accent, parlait un peu comme ça. Il faut vous dire qu'il avait passé toute une grande partie de sa jeunesse hors de France. Il avait une façon un peu particulière de prononcer le français. Bref, toujours est-il que l'impératrice est un peu une inconnue pour ses propres sujets. Qui était-elle au fond? C'est ce que nous allons voir maintenant.
De Violettes Impériales sur Europe 1, composée par Francis Lopez. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand a décidé de vous raconter l'histoire de celle qui était considérée comme l'une des plus belles femmes de son époque, l'impératrice Eugénie.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Elle était l'épouse de Napoléon III et donc impératrice des Français de 1853 à 1870. Franck Ferrand, vous nous racontez cet après-midi l'histoire de l'impératrice Eugénie.
Et oui, cette impératrice Eugénie, vous l'avez dit, avait épousé Napoléon III en 1853. Les Français la découvraient et on savait vaguement, alors que son père était un grand d'Espagne. Son père, c'était le comte de Thébas. En vérité, il était l'héritier d'une des plus grandes familles d'Espagne et une de ces familles qui s'était ralliée aux frères de Napoléon lorsqu'il était devenu roi d'Espagne, vous savez, à Joseph. Napoléon, il était même entré dans l'armée impériale. Quant à sa mère, elle était la fille d'un négociant en vins et primeurs, une femme cultivée, intéressante, ambitieuse, la célèbre comtesse de Thébas, qui ne laissait personne indifférent à Paris. On peut dire qu'elle était très connue dans les années de la monarchie de Juillet. Elle est veuve assez tôt, cette comtesse de Thébas, et elle a bien l'intention de placer ses filles. Alors on sait que Eugénie a été amoureuse du duc d'Albe, mais elle a dû, comme c'était souvent le cas dans ce genre de famille, elle a dû s'effacer devant sa sœur, Paca, qui a épousé, elle, le duc d'Albe, qui est devenue la duchesse d'Albe. Et puis, il y a eu un grand amour dans la jeunesse de Eugénie de Montijo. C'est un amour pour le marquis d'Alcanithès, qui était un personnage assez étonnant, qui lui a fait une cour effrénée, romantique. Et il faut dire que Eugénie était particulièrement belle, vous l'avez dit, Anissa. Elle était très mince, très gracieuse, avec des yeux d'une espèce de violet tendre absolument extraordinaire. Elle a fait un voyage en France, son premier voyage en 1849, c'est-à-dire que on est juste après l'élection à la présidence de la toute nouvelle République, c'est la deuxième République du prince Louis-Napoléon Bonaparte, et on la met sur le trajet du prince président. Encore une fois, c'est une famille bonapartiste, une famille espagnole, mais bonapartiste. Le prince président l'a remarqué, du reste, il va la retrouver chez sa cousine, la princesse Mathilde. Il est très vite amoureux. Alors, on sait que Napoléon III était un peu, enfin celui qui va bientôt s'appeler Napoléon III, hein, au tournant du coup d'État, à la faveur du coup d'État de 1851, à partir de 52, il est l'empereur. On sait que c'était un cœur d'artichaut, il est tombé souvent amoureux, mais là, c'est quelque chose de plus important. Alors, il y a cette phrase, est-elle vraie, est-elle apocryphe? Napoléon III, le tout nouvel empereur, demandant à la jeune Eugénie comment on fait pour se rendre chez elle. Elle lui aurait répondu « en passant par l'église, sire ». Et finalement, il va effectivement l'épouser. Elle devient l'impératrice des Français. Elle tient son rang, bien entendu, mais non sans difficulté, car pour elle, c'est un changement de vie considérable. Elle menait en Espagne une vie relativement libre et tranquille, et la voilà maintenant soumise à cette étiquette impériale, à toutes ses obligations à longueur de journée. Elle va visiter les hôpitaux, enfin, vous savez, le rôle des souverains, bien entendu. Elle dit elle-même qu'elle se sent en cage, dit-elle, et elle adore aller se réfugier à Compiègne ou à Fontainebleau, où elle organise les fameuses séries, c'est-à-dire des espèces de petits séjours où sont invités un certain nombre de personnalités brillantes du régime et qui contribuent au rayonnement de la France, bien entendu, et au soutien du régime de son époux Napoléon III. Vous savez, c'est une vie quand même extrêmement agréable que l'on mène dans ces cercles très très évolués du Second Empire. On a appelé ça la fête impériale, parce que ce sont des bals, des chasses, des promenades à n'en plus finir. Le véritable plaisir de Génie, c'est la villégiature. Et nous allons y venir tout à l'heure, nous allons parler de cela avec Étienne Chillot. Elle possédait un certain nombre de propriétés un peu partout. La plus célèbre de ces villas, c'est celle de Biarritz, qui se trouvait à l'extrémité de la plage des Fous à Biarritz, et qui tenait, nous dit Octave Aubry, à la fois de la gare et de l'établissement thermal. La cour à la suite de Génie, va y effectuer un certain nombre de séjours entre 1855 et 1869. C'est là que le petit prince, le fameux prince impérial, va apprendre à nager, bien entendu. Il est toujours sous le contrôle de sa célèbre gouvernante, Miss Shaw. On mène à Biarritz une vie simple et bourgeoise. Voilà ce que nous dit le docteur Barthez. L'impératrice est comme une pensionnaire échappée, frappant à droite, à gauche, courant, criant, gesticulant et n'ayant plus le moins du monde la majesté d'une impératrice, dit-il. Alors ça, c'est pour le beau côté. J'avais d'ailleurs eu l'occasion ici même de vous raconter il y a quelques années le fameux périple du 30 septembre 1859 lorsque l'impératrice avait voulu monter à Cacolet. Vous savez, on est à dos de mule, si vous voulez, jusqu'à la Rune, une grande expédition à travers le Pays Basque qui s'était très mal finie. Toute la cour était rentrée exsangue au milieu de la nuit. Les femmes avec les robes et les chaussures complètement déchirées. Madame de la Bédoyère avait d'ailleurs demandé qu'on la tue sur place, parce qu'elle préférait ça plutôt que de souffrir à ce point. Et c'est Pauline de Metternich, grande confidente de l'impératrice, qui avait écrit « Les dames du palais s'insurgeaient, les invités se sentaient prises de velléités révolutionnaires, on pestait contre ces souverains ayant la manie de grimper sur des pics inaccessibles, on jurait de se venger, et je ne sais si dans leur désespoir et leur découragement, il n'y a pas eu des femmes qui formaient le sinistre projet d'étrangler de leurs propres mains la pauvre impératrice. » Bref, voyez que tout ça est assez bon enfant, assez insouciant. Ça, c'est l'apparence. Parce que dans la réalité, vous allez voir que la vie impériale de Génie n'est pas tellement agréable.
Personnalité étonnante, l'impératrice Eugénie est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h dans Au cœur de l'histoire. Vous pouvez bien sûr réagir à l'émission, poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous donc sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
C'est l'impératrice Eugénie qui est à l'honneur cet après-midi. Vous avez décidé de nous parler de sa vie, Franck Ferrand. Une vie qui n'était pas si douce que cela.
Et non, parce que, vous savez, l'impératrice s'étourdit beaucoup en promenade, en moments apparemment agréables. Mais la vérité, c'est que la pauvre porte des cornes assez humiliantes. Son mari est un coureur de jupons invétéré, l'empereur Napoléon III. Et évidemment, pour l'impératrice, c'est difficile à vivre. Il y a énormément de complications, vous savez, des histoires, des querelles de cour. Et plus le temps va passer, en tant que mère, sans doute, et pour soutenir les intérêts de son fils, ce prince impérial, qui normalement doit devenir Napoléon IV, elle va entrer dans l'arène politique. Elle va d'abord s'intéresser aux affaires d'Italie, vous savez, au moment de la grande campagne de 1859, et elle va prendre les intérêts du pape. Elle va assumer la régence au moment de cette campagne d'Italie, justement, en 59, et puis au moment du grand voyage en Algérie, en 1865, et l'empereur, disons-le, est de plus en plus malade. Il souffre de calculs rénaux, ce qu'on appelait à l'époque la maladie de la pierre. Et l'impératrice intervient de plus en plus dans les affaires de l'État. En 1862, c'est elle qui va pousser à cette fameuse expédition du Mexique qui va se révéler tellement désastreuse avec, à terme, l'assassinat, vous savez, enfin l'exécution de l'empereur Maximilien. C'est elle qui, devenue aux yeux de l'opinion l'Espagnole, un peu comme il y avait eu l'Autrichienne autrefois avec, la reine Marie-Antoinette, c'est elle qui va se faire l'armée arbitre d'un certain nombre de questions, notamment au moment où l'Empire, lui, est en train de se libéraliser. On entre dans l'Empire libéral du Premier ministre Émile Ollivier, et là, l'impératrice n'est pas d'accord. Elle veille de plus en plus attentivement à la santé déclinante de son mari, et les cures qu'ils effectuent à Plombières, à Vichy, etc., n'arrangent rien. Vous savez, on dit que Napoléon III aurait un jour répondu « Adressez-vous au ministre, moi je ne suis plus rien ». Et c'est vrai qu'il va de plus en plus mal. Et au moment où la tension se fait si vive avec la Prusse, eh bien, il faut bien admettre que c'est l'impératrice qui va pousser à cette fameuse guerre contre la Prusse. Il est vrai que le Second Empire bénéficie d'une armée dont on pense à l'époque qu'elle est de loin la plus importante et la plus puissante du monde. On ne peut pas imaginer que la Prusse puisse faire grand mal à la France. Eh bien, c'est pourtant, vous savez, ce qui va se passer. Il y a cette scène extraordinaire des adieux, si je puis dire, à la gare privée, à la gare impériale de Villeneuve-les-Tons. On est le 28 juillet 1870, à 10h du matin. L'impératrice est là pour dire au revoir à son mari et à son fils, le jeune prince impérial, qui part lui aussi pour la guerre. Sauf que Napoléon III part pour la guerre dans des conditions qui ne vont pas lui permettre de la gagner, cette guerre. Et on connaît la suite, le 2, le 3, le 4 septembre, l'effondrement, d'abord l'encerclement, puis l'effondrement de l'armée impériale dans Sedan, proclamation un peu sauvage de la République à Paris. Et que fait l'impératrice pendant ce temps, qui est la régente quand même, qui est censée gérer l'Empire? Elle est complètement débordée, le préfet de police vient voir ce qu'il peut faire pour elle, elle lui répond « Mais enfin, monsieur, ne vous occupez pas de moi, occupez-vous de la France ». Il est trop tard, partout on crie dans Paris « Déchéance, République », etc. Et il va falloir que l'impératrice s'enfuit, comme l'avait fait avant elle le roi Charles X, comme l'avait fait avant elle le roi Louis-Philippe, elle va s'enfuir. Alors, vu que c'est dans des circonstances terribles, elle est avec une de ses dames d'honneur, elle monte dans un simple fiacre de louage, hein, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui un taxi tout simplement, et elle se rend chez son dentiste, avenue Foch, enfin à l'époque on appelait ça l'avenue de l'impératrice, au coin de l'actuelle avenue Malakoff, et c'est son dentiste qui va lui permettre de s'évader, si je puis dire, de passer via Deauville jusqu'en Angleterre, et puis, eh bien, il y aura, à partir de là, c'est le début d'un exil terrible, ça va être l'incarcération de son mari par Bismarck et par les Prussiens au château de Wilhelmshöhe à Kassel. Elle va faire le voyage d'ailleurs jusqu'à Kassel pour retrouver l'empereur Napoléon III, et puis elle s'arrangera pour le faire venir en Angleterre, bien sûr, à Chiselhurst, où lui-même mourra en 1873. Et à partir de là, eh bien, pour tous les bonapartistes, pour tous ceux qui restent fidèles à un empire qui en France n'est plus, bien entendu, c'est son fils, c'est le prince impérial qui devient en quelque sorte l'empereur, qui est en tout cas le chef de la maison impériale. Et ce jeune prince, il essaie de marcher dans les pas de son grand-oncle et de son père, bien entendu. Il va suivre les cours de l'académie militaire de Woolwich, et c'est comme ça qu'il va se trouver, en quelque sorte, embringué, embarqué dans la campagne militaire contre les Zoulous, dans l'Afrique la plus australe qui soit, et qu'il va périr, percé par 17 coups de sagaie, vous imaginez, face aux Zoulous. C'est le drame terrible pour Eugénie. Elle a perdu son mari en 1873, et bien voilà qu'en 1879, elle perd son fils. Elle n'est plus, à partir de là, qu'une sorte de vestige, mais un vestige qui va vivre encore plus de 40 ans, puisque dites-vous bien que l'impératrice Eugénie ne mourra qu'en 1920. Ce sont ces 40 années d'exil, c'est cette longue errance que l'impératrice a tenté, parfois, d'adoucir en se rappelant les bons souvenirs que nous allons essayer de vous faire revivre avec Étienne Chilot. Bonjour Étienne Chilot.
Bonjour.
Vous avez écrit un petit ouvrage très très intéressant dont je rêvais, pour tout vous dire, parce que cette visite de l'impératrice à Fontainebleau en 1914, elle est mythique. Nous y venons avec vous dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand consacre son émission à l'impératrice Eugénie. Franck, vous recevez Étienne Chilo, historien et responsable des éditions du Château de Fontainebleau, qui vient de sortir La dernière visite, l'impératrice Eugénie à Fontainebleau, été 1914.
C'est un bonheur, nous dit Eugénie Bousquerolles, un bonheur d'en apprendre plus sur celle dont je porte le nom. Quand on pense qu'elle a connu des courtisans de Marie-Antoinette et s'est éteinte après la Première Guerre mondiale, formée par Stendhal et Mérimée, devenir impératrice des Français, inaugurer le canal de Suez, et puis la chute, l'exil, les deuils. Quelle vie, c'est vrai, Étienne Chilo, quelle vie incroyable que celle d'Eugénie, qui a été à la fois l'amie de Mérimée et celle de l'impératrice Sissi.
Alors, elle était surtout l'élève de Stendhal, c'était son prof d'histoire. Mérimée l'a suivi très longtemps, c'était son confident. Elle a rencontré la reine Victoria, l'impératrice Sissi, comme vous le dites ici justement. Donc, elle va être témoin de plein d'événements et en même temps confidente de plein d'artistes et d'hommes politiques majeurs jusqu'au XXe siècle. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est de s'imaginer une femme qui démarre en étant impératrice des Français, qui rencontre des courtisans, des anciens courtisans de la reine Marie-Antoinette, extrêmement âgée, et lorsqu'elle est très vieille, qu'elle meurt à presque 94 ans, elle rencontre Jean Cocteau.
C'est ça, hein. Et d'ailleurs il y a un texte de Jean Cocteau absolument magnifique, je vais tâcher de vous le retrouver pour vous le lire tout à l'heure. Il raconte son entrevue en quelque sorte avec l'impératrice. Il était lui tout jeune, elle était très âgée, mais c'est un moment assez magnifique. Alors, je suis en train de feuilleter votre petit ouvrage sur cette visite qu'a faite l'impératrice à Fontainebleau. On va y venir et on va y venir sur le document qui vous a permis d'écrire ce livre. Mais ce qui m'a marqué, c'est que sur la page de garde, la dernière garde de l'ouvrage, ce qu'on appelle la troisième de couverture, vous nous avez installé le célèbre tableau de Winterhalter qui représente l'impératrice et ses dames et qui, si je ne m'abuse, se trouve au château de Compiègne. Vous nous l'avez collé dans un salon du château de Fontainebleau, vous.
Oui, je l'ai fait réaliser grâce à Natacha Kotlarewski.
C'est un photomontage, en fait.
C'est un photomontage qui nous a été permis grâce notamment à la restauration du musée chinois qui a eu lieu. Donc, pas de mise à distance, pas d'objets trop modernes. Donc, j'ai demandé à faire ce photomontage pour illustrer l'emplacement de ce tableau extraordinaire de l'impératrice au milieu de cette dame d'honneur, d'ailleurs, qui est représentée dans une forêt de Fontainebleau. Aujourd'hui, ce tableau est conservé au château de Compiègne. Donc, il fallait voir à peu près ce que ça pouvait donner à l'époque de l'impératrice. Pourquoi elle l'avait placé là? Aujourd'hui, le mur est vide. Mais en revanche, lorsqu'on se trouvait dans ce salon Louis XV, on avait une perspective magnifique avec ses rideaux devant le tableau. Donc, je vous laisserai le découvrir dans ce livre, à la fin du livre. Donc, voilà, c'est un tableau qui avait été peint en 1855. Il a été installé dans le musée chinois en 1865 et a été récupéré ensuite par l'impératrice Eugénie en 1881. Elle l'avait installé dans sa propriété de Farnborough Hill en Angleterre.
Alors c'est ce qu'il faut peut-être qu'on explique, c'est que l'impératrice donc en 1870 se retrouve à Chislehurst parce qu'elle se sauve hein, littéralement de Paris. Elle va recevoir là son mari. Et puis très vite, le couple impérial s'installe dans une demeure, j'ai envie de dire, plus digne de son rang, en quelque sorte, Farnborough.
Alors, je corrige. Farnborough, en fait, elle y habite après la mort de l'empereur. Au début, vous avez raison, il s'installe dans une sorte de cottage très bourgeois à Camden Place, donc à Chislehurst.
À Camden Place, voilà.
Voilà. Et Camden Place va voir la fin de vie de l'empereur Napoléon III, va assister aux funérailles du prince impérial, entre guillemets, Napoléon IV, hein, tué par les Zoulous, comme vous le disiez tout à l'heure. Et à partir de là, l'impératrice Eugénie décide de se redonner une seconde chance finalement pour la suite, c'est-à-dire de laisser ces lieux hantés par la mémoire de ses proches et de partir vers une nouvelle demeure à une soixantaine de kilomètres de Londres, à Farnborough. Elle achète cette demeure, elle la fait agrandir et elle va décider du coup de transférer les cendres.
Donc elle fait faire une sorte de petit mausolée, hein, disons.
Mausolée, oui. Aujourd'hui c'est une abbaye, donc elle fait construire une chapelle qui va recevoir les cendres de Napoléon III et du prince impérial. À partir de ce moment-là, eh bien, elle va commencer à se dire qu'elle peut vivre à nouveau, puisqu'elle a trouvé une terre d'asile pour les cendres de ses proches.
Et vivre pour elle, c'est notamment voguer, puisqu'elle adore les régates, elle aime beaucoup être en mer, et elle a un petit, tout à fait extraordinaire d'ailleurs, un petit yacht, qui d'ailleurs pour nous à notre époque paraîtrait déjà une de belle taille, qui s'appelle le Thistle, c'est-à-dire le chardon.
Le chardon en référence aux origines de sa mère, l'origine écossaise de sa mère, la comtesse de Théba.
Alors le monde entier connaissait l'impératrice Eugénie évidemment, et l'on dit que juste avant la Première Guerre mondiale, elle se trouve dans un fjord norvégien à peu près en même temps que l'empereur Guillaume II, qui lui est sur son espèce d'énorme yacht là, qui s'appelle le Hohenzollern, et l'empereur fait baisser les couleurs et donner les canons en l'honneur de l'impératrice quand il passe à proximité du petit Thistle.
Et elle le reçoit d'ailleurs, l'impératrice reçoit l'empereur Guillaume II sur son yacht, le Thistle, donc c'est une rencontre un peu incroyable, improbable, parce qu'on a finalement le petit-fils de celui qui a causé la déchéance de Napoléon III, accueilli par la veuve de Napoléon III.
Alors, du temps de l'Empire, l'impératrice avait bien entendu un certain nombre de résidences extraordinaires. On a parlé de cette énorme, gigantesque villa de Biarritz, qui est d'ailleurs devenue un grand hôtel aujourd'hui. Faudrait dire un mot du palais du Pharaon, par exemple, à Marseille. Hein.
Alors, à Biarritz, d'ailleurs, ça s'appelle l'hôtel du palais, ça s'appelait la villa Eugénie avant. Au Pharaon, alors le Pharaon, c'était un plateau que lui avait offert, en fait, Napoléon III, à Marseille, donc sur le plateau. Il lui offra et il lui fit construire un palais. Ce palais, à la chute de l'Empire, fut revendiqué par la cité phocéenne. Donc ça causa en fait un procès que l'impératrice gagna. Et du coup, elle le relégua à la ville. En fait, c'est des choses comme ça où elle préfère être reconnue telle que impératrice, ex-impératrice des Français, mais toujours impératrice Eugénie. Il faut faire la distinction entre sa liste civile, sa liste personnelle. Et à partir du moment où l'État accepte et admet ce qui est propre à elle, là, elle peut commencer à léguer parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de propriétés.
Elle a notamment une propriété qui fait rêver l'Europe entière, qui est tout à fait dans l'esprit néo-romantique de l'époque. C'est le château de Pierrefonds. Qu'elle fait complètement remanier par Viollet-le-Duc, et qui est une sorte de folie, mais alors une folie à tous les sens du mot, là, parce que c'est pas seulement un bel endroit pour venir prendre le thé avec ses amis pendant qu'elle réside à Compiègne, c'est un gigantesque château fort qui paraît sorti du fond des âges.
La mode de oui. Viollet-le-Duc, comme à Carcassonne. Et d'ailleurs, elle se fera appeler tout le long de son exil comtesse de Pierrefonds. Même Napoléon III se faisait appeler comte de Pierrefonds au tout début de son exil. Donc elle va garder cette affinité pour ce château.
Alors, on se rappelle cette visite qu'avait faite l'impératrice à Pierrefonds. On est juste avant la Première Guerre mondiale. Il y a des visiteurs qui visitent le château, comme aujourd'hui, hein, tout simplement, parce qu'il est ouvert au public. Et alors, on leur dit, non, il ne faut pas faire de bruit. Mais attention, là, ces salons ne sont pas disponibles. Ah bon, mais donc les gens s'approchent. Ils voient une dame toute vêtue de noir, voilée de noir. Ils disent, mais qui est cette dame? C'est l'impératrice Eugénie. Vous imaginez la tête des visiteurs qui disent, mais là, pour le coup, le château devient doublement historique. Ils sont en présence d'un monument historique. Lorsqu'on parcourt les mémoires du grand conservateur du château de Versailles, Pierre de Nolhac, on se rend compte que l'impératrice venait régulièrement aussi au Petit Trianon, parce qu'elle avait une passion pour Marie-Antoinette, et qu'elle avait d'ailleurs organisé au moment de l'exposition universelle de 1867, une grande expo sur Marie-Antoinette. C'est la première rétrospective en France, tout simplement. Cette impératrice voyage, revient sur les lieux qu'elle a habités en tant qu'impératrice. Elle entretient avec la République française, on va dire, des relations courtoises, sans plus, mais à peu près courtoises. Et il faut dire quand même que la République lui permet de revenir comme ça sur les lieux, et notamment au château de Fontainebleau. C'est l'objet même de votre ouvrage. Nous y venons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous nous intéressons à la vie très riche de l'impératrice Eugénie aujourd'hui. Franck Ferrand, vous recevez Étienne Chillot, historien et responsable des éditions du Château de Fontainebleau et auteur de la dernière visite, l'impératrice Eugénie à Fontainebleau, été 1914.
Alors ce petit livre est né d'une découverte, Étienne Chillot. Il faut dire ce que vous avez, quel document vous a fait réagir.
Quelque chose d'incroyable. Vous arrivez dans un établissement qui a une documentation, des archives, et là, on vous tient au courant qu'un agent de surveillance du début du XXe siècle tenait justement un cahier de toutes les visites qui arrivaient au château de Fontainebleau durant son mandat. Et une était particulièrement plus fournie, plus retranscrite, c'était la visite de l'impératrice Eugénie qui s'est passée le 10 juillet 1914. Et ces mémoires viennent du brigadier Vincent.
Alors qui est ce brigadier Vincent ? Donc c'est un agent de, vous dites un agent de surveillance en quelque sorte ?
C'est un agent de sécurité.
Ce que nous appellerions nous. Hein.
Voilà, exactement, qui était à Versailles avant, qui ensuite est arrivé au château de Fontainebleau pour en même temps d'être érudit par l'histoire du château et d'ailleurs accéder à la bibliothèque et à la documentation, gérer aussi ces services-là, était aussi là pour la sécurité et le guidage de certains visiteurs privilégiés, de certains hôtes de marque, au château de Fontainebleau.
Alors, vous avez, dans votre ouvrage, trouvé un certain nombre de photos de l'impératrice devenue très âgée. Ce qui est assez touchant, assez émouvant, c'est de voir à quel point ces traits, somme toute, n'avaient pas tellement changé. On reconnaît dans la très vieille dame, notamment le très beau regard de la jeune impératrice, en fait. Hein.
Elle est restée digne et avec un port altier, quelqu'un de très majestueux qui reste de toute façon dans son rôle. En revanche, les traits...
Elle regarde tout d'un petit peu haut, comme ça, oui.
Le passé, oui, voilà, le passé est quand même marqué hein, dans son sur son visage. Eh bien, quand elle arrive, elle est quelque part. Alors, justement, supposez Marie-Antoinette évadée de la conciergerie et décédée en 1850.
Ah, c'est ça.
Imaginons un instant ce qu'aurait pu donner justement la même visite au petit Trianon si la reine avait survécu la Révolution et elle était revenue pendant la Révolution industrielle. Imaginez donc nous à l'époque ce que ça pouvait représenter d'accueillir l'ancienne maîtresse des lieux, l'ancienne résidence.
Ça, mais alors, ça doit être terrible. Et d'ailleurs, je la trouve, parce qu'on décrit bien entendu son attitude dans chaque salon, etc. Je la trouve d'une très grande bienveillance parce que ce qu'elle a connu comme objet usuel, si je puis dire, ça devient des objets de musée qui se retrouvent sous clé dans des vitrines. Ça doit être incroyable à vivre.
Un instinct muséographique chez elle.
Ça, oui.
D'ailleurs, à l'époque du Second Empire, on a cette idée de devoir muséographier, reconstruire et faire découvrir les objets du passé. Donc elle a installé les objets, les tableaux, le mobilier en fonction des thématiques de chaque pièce et elle trouve que cela a un sens parce qu'il ne faut pas oublier que Fontainebleau, c'est la vraie demeure des rois, hein, la maison des rois, la vraie demeure des siècles et du coup effectivement on sent qu'elle veut résumer dans des salles, résumer dans des pièces toute l'histoire qui s'est passée.
Alors donc, quels sont les moments de nostalgie que laisse paraître l'impératrice pendant cette visite de 1914 ?
D'espoir, c'est ça ?
Oui, de...
Là, effectivement, elle se dit que finalement ce château, en tant que musée, est resté à peu près en l'état où elle l'a laissé. Mais elle voit surtout que certains endroits, il y a la dame au chien, un tableau fameux qui n'est plus à sa place. Donc elle le cherche. Il y a les commodes Benman qui sont au Louvre et qui, au moment où elle passe, donc en 1914, elle ne les voit plus et elle considère que ces objets-là doivent être là. Et donc elle a beaucoup, elle a un ton presque péremptoire, mais elle dit qu'il vaudrait mieux installer certaines choses dans certaines pièces pour le bien du musée, pour le bien du château.
Et celui qui l'a conduit, c'est Monsieur d'Esparbès.
Alors. Justement, quand elle arrive, la rencontre est tellement inattendue qu'elle arrive vers 2h de l'après-midi, le vendredi 10 juillet 1914, et lorsqu'elle arrive, le conservateur n'est même pas là. Alors pour vous dire, la visite inattendue, presque une dame qui va presque acheter son ticket, si j'ose dire, pour visiter son ancienne résidence. Donc, le conservateur, Georges d'Esparbès, qui est un écrivain populaire, un ancien du Chat Noir, donc, et conservateur donc depuis 1904, arrive en urgence au château et reprend la suite de la visite, notamment au moment où elle est à côté de l'appartement des chasses, cet appartement qui était occupé par le prince impérial et qu'elle refuse d'aller voir. Elle le refuse dans ces termes-là, elle dit « moi, je n'y vais pas ». C'est-à-dire qu'elle propose aux autres d'aller voir toutes les pièces qu'ils veulent. En revanche, elle ne veut pas tout ce qui touche à son fils, elle ne veut surtout pas...
Évidemment, ça lui déchire le cœur. S'arrêtant tout à coup, écrivez-vous, dans un petit salon de passage, elle dit se rappeler avoir vu là le portrait en pied de Diane de Poitiers du Primatis. Elle demanda ce qu'était devenu ce portrait. « Hélas, Majesté, répondit Monsieur d'Esparbès, il est maintenant au Louvre. Eh bien, Monsieur le Conservateur, on devrait vous le rendre. » Et pour un instant, dans la voix si douce, semble se réveiller un ordre. On traverse ensuite les appartements de Madame de Maintenon qui furent habités par la princesse Mathilde, puis on entre dans la galerie d'Henri II. C'était la salle à manger des grands dîners, dit-elle. On y arrivait par un petit couloir sombre, ce qui produisait une grande surprise sur les invités lorsqu'ils pénétraient dans la galerie dorée. Il y avait un sens, évidemment, de la mise en scène sous le Second Empire qui a disparu dans le musée de la Troisième République, forcément.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, la visite se passe dans l'autre sens que celui qu'elle emprunte. Aujourd'hui, on commence par l'aile Louis XV. Elle démarre par la sortie, c'est-à-dire au-dessous du fer à cheval. Donc, on voit toutes les strates pour arriver au final vers les grandes pièces d'apparat. Donc, elle nous fait revivre tout ça à travers ses mots et à travers les mots d'une vieille dame qui dit, bah, ici, on prenait notre thé, ici, on attendait nos convives, ici, on faisait même du patin à roulettes dans la galerie François Ier.
L'émouvant récit de sa dernière visite à Fontainebleau, nous dit Frédéric Mitterrand dans la préface qu'il vous accorde, outre ce qu'il révèle d'un style de vie remarquable et d'un goût à la fois éclectique et très pur, témoigne pour la qualité de ses sentiments et de sa fidélité au passé qui les anime. L'impératrice Eugénie fut follement admirée et sévèrement blâmée au soir de sa vie. C'est une souveraine en exil qui réveille l'enchantement d'un palais de sa jeunesse et suscite en nous le seul désir de l'aimer, dit-il.
Tout est résumé, je crois. Je suis très heureux d'ailleurs que Frédéric Mitterrand ait pu écrire ces mots à propos d'elle, parce que voilà, c'est quelqu'un...
Vous pensez que l'impératrice Eugénie, qui a été tellement décriée, et pour cause, hein, puisqu'elle était un peu quand même l'ennemi des historiens de la République, donc elle a été, et puis on l'a considérée comme, peut-être à juste raison du reste, hein, on l'a considérée comme responsable de l'affaire mexicaine, comme responsable en grande partie de la terrible guerre de 1870, etc. Pensez qu'elle pourrait redevenir une figure populaire ou sympathique pour les Français ?
Elle l'est, je pense, dans l'imaginaire des gens. C'est une Marie-Antoinette bis, si j'ose dire.
Il faut dire qu'en 1919, elle a joué un rôle intéressant.
Ben c'est ce qu'on oublie. Hein. C'est vraiment le moment où, justement, vous en parliez tout à l'heure. L'épisode de la chute de Sedan 1870, où elle part en exil en Angleterre avec le docteur Evans, son dentiste. Ce docteur a pris en charge le fils de Napoléon III, qui s'appelait un bâtard de Napoléon III, qui s'appelait Arthur Gunschmidt, et il va devenir ce bâtard, excusez-moi du terme, va devenir également chirurgien
enfant
dentiste.
Naturel, oui.
Voilà, enfant naturel. Et qu'il avait eu a priori peut-être avec la Castiglione. Et donc, en 1919, lorsque la guerre 14-18 est terminée et que le traité de Versailles est en pourparlers donc à Versailles, Clémenceau a une majestueuse rage de dents et arrive chez le dentiste. Et ce dentiste, c'est Hugenschmidt. Et lorsque Clémenceau parle de ce qui se passe dans ce traité de Versailles et parle notamment du problème qui se pose, c'est-à-dire de récupérer l'Alsace-Lorraine, parce que c'était pas une priorité des plénipotentiaires alliés, notamment de redonner l'Alsace-Lorraine à la France, eh bien, Hugenschmidt se rappelle que l'impératrice Eugénie avait gardé une lettre que l'empereur d'Allemagne, Guillaume Ier, le roi de Prusse, au moment des faits,
oui,
lui avait adressée en lui disant, écoutez madame, je ferai le moins de mal possible à votre pays, en revanche, je préfère annexer l'Alsace-Lorraine comme une zone tampon. Non pas que je considère...
Et ça
que...
va servir, hein, cette
bien
lettre
sûr.
Que va fournir l'impératrice Eugénie au gouvernement de la République va servir les intérêts de la
Exactement.
France en 1919. Je vous avais promis le texte de Jean Cocteau, je l'ai retrouvé pendant ce temps-là. Voilà ce que nous dit Jean Cocteau. Elle portait une manière de soutane, un chapeau de paille sombre, une canne à béquille. Elle était infatigable. Ses yeux étaient délavés et il n'en restait qu'une vague tache bleu pâle encerclée de maquillage noir. Elle éclatait parfois d'un rire espagnol, ce rire qu'on entend aux arènes lorsque les femmes trépignent d'enthousiasme avec leurs petits pieds de bouc. J'étais très jeune, l'impératrice était très vieille. Mon coup d'œil était donc celui de quelqu'un qui entre et qui regarde quelqu'un qui sort. Merci beaucoup Étienne Chillot. La dernière visite est publiée chez Le Charmoiset. On peut la trouver notamment sur le site internet, lecharmoiset.com. Et puis il faudrait citer Un jour à Fontainebleau des éditions Flammarion. Très très bel ouvrage, toujours dans cette jolie collection Un jour à, qui sont des petits ouvrages de luxe. Et alors, une énorme chose, un véritable monument. Fontainebleau, la vraie demeure des rois sous la direction de Vincent Droguet. C'est un somptueux volume sur le château lui-même qui justifiera une émission à part entière.
Dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de Vincent qui veut en savoir plus sur les origines du savon.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et au aujourd'hui, Franck, c'est une question de Vincent sur la page Facebook Au cœur de l'histoire qui vous demande les origines du savon.
Alors le savon, c'est très très vieux. Vous savez que c'est un produit qui est inventé il y a vraiment longtemps. Ça vient de Mésopotamie, environ 2800 ans avant notre ère. Et c'est dans la ville d'Alep, dans l'actuelle Syrie, qu'est créé le premier véritable savon, le fameux savon d'Alep, qui a surtout à l'époque, disons-le, une utilisation médicinale. En Europe, le savon est fabriqué à partir de graisse d'animal et de cendres. Il est encore assez corrosif. On est très loin de nos savonnettes toutes douces d'aujourd'hui. On en est même particulièrement loin, il faut le dire. On utilise ce savon pour blanchir le linge, pour éclaircir la couleur des cheveux, etc. Le savon d'Alep est ramené et rapporté en Europe après les croisades. Et c'est à partir du XIIe siècle qu'on va créer, surtout en Italie, en Espagne et dans le sud de la France, les fameuses savonneries. Je dis dans le sud de la France, les plus célèbres sont à Marseille. Évidemment, le savon de Marseille, je ne vais pas vous apprendre ça. Et pour cause, hein, puisqu'il est facile de se fournir de l'huile d'olive qui est nécessaire à l'époque à la création de savon. Alors, c'est pas parce qu'on a du savon qu'on se lave tellement. Ça c'est une autre histoire. Vous savez que pendant longtemps, on pratiquait ce qu'on appelait la toilette sèche à la cour. Ailleurs, on ne pratiquait pas de toilette du tout, j'ai envie de dire, ça dépend. Bon. Au cours du XVIIIe siècle, on voit néanmoins des manufactures de savon se développer. Il y a 8 savonneries en 1600, 20 en 1650, 48 en 1787, 62 en 1813. Bref, les Français consomment de plus en plus de savon. Le savon est bon marché grâce à Nicolas Leblanc, qui en 1789, ça ne s'invente pas, découvre le procédé de fabrication du carbonate de sodium à partir d'eau de mer. Ça va permettre une obtention beaucoup plus facile.